بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, désolé pour le contretemps qui a pu se produire. Donc effectivement, il y a eu un petit souci au niveau technique. Mais alhamdoulilah, ça a été réglé. Donc nous poursuivons, alhamdoulilah, la série de cours autour des hadiths an-nawawiyya. Et donc comme vous le savez, alhamdoulilah, durant ce mois de Ramadan, donc différentes séances de cours sont dispensées à 18h30 sur le site de la radio de la mosquée d'Alua, alhamdoulilah. Et donc ici, on va voir ensemble un hadith qui est d'une gravité assez extrême. D'une gravité assez extrême car il traite de nos œuvres. Il traite de nos œuvres et de nos actions qui nous sont chères, que nous effectuons au quotidien et dont nous espérons la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sujet concerne en fin de compte les conditions d'acceptation de nos œuvres. Donc les conditions d'acceptation de nos œuvres et précisément l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant nos œuvres. Donc ici, sans plus attendre, le hadith est le suivant. An Abi Hurayrata radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Donc ici le hadith, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il a dit « Ô messager, mangez de ce qui est pur et accomplissez de bonnes œuvres. Car certes, je suis yani, savant de ce que vous faites. » Il a dit également « Ô vous qui croyez, mangez des choses pures dont nous vous avons octroyé et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala si c'est lui que vous adorez. » Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna l'homme qui effectue un long voyage, ébouriffé et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel. « ô Seigneur, alors que son alimentation est illicite, que sa boisson est illicite, que sa tenue est illicite et qu'il a été nourri de l'illicite, comment celui-ci serait-il exaucé ?» Le hadith a été rapporté par Muslim. Donc ici, à travers ce hadith, donc on voit très clairement la gravité du sujet, notamment sur l'acceptation des œuvres et de l'invocation. Plusieurs enseignements sont attirés de ce hadith. Le premier enseignement, c'est la parole du prophète sallam qui nous dit « Inna Allaha tayyibun ». Allah est bon. Et ici, le sens de bon, ici, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, signifie tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut dans ses noms et ses attributs, dans ses décrets et dans sa législation. Il est le plus juste, le plus miséricordieux. Il est celui qui connaît parfaitement le monde de l'invisible et le monde du visible. Rien ne lui échappe. Il est celui qui voit tout et qui entend tout. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur des créatures. Son décret est parfait, sa sentence est parfaite. Toute la création dépend de son ordre. Il dit tout simplement « kun fayakun ». Il dit tout simplement « soit et allez ». Donc ici, ça c'est le premier enseignement, alhamdoulilah, à tirer concernant ce hadith. Le deuxième enseignement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est bon et au même titre, il accepte uniquement ce qui est bon. Et ici, ce point-ci, précisément, doit nous faire réfléchir et doit nous faire frémir un petit peu. Car effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala accepte uniquement ce qui est bon et illicite. La question qu'on doit se poser, effectivement, c'est concernant nos œuvres. Ont-elles un caractère qui est bon? Sont-elles bonnes, nos œuvres? Ont-elles un caractère qui est licite? Est-ce qu'on les effectue correctement, nos œuvres? Est-ce que on met la bonne intention, comme on le verra, c'est l'une des conditions? Donc toutes ces questions, en fin de compte, doivent nous amener à réfléchir, en fin de compte. Car on effectue beaucoup d'œuvres, alhamdoulilah, le quotidien nous amène à faire beaucoup d'œuvres, beaucoup de bonnes actions, mais on oublie bien souvent de se poser la question de Al-Qaboul. Est-ce que mon œuvre est acceptée ou pas? Parce que bien souvent, on part très rapidement, yani, dans une conclusion où on se dit j'ai fait, automatiquement c'est accepté. Pas forcément. Pas forcément, subhanallah. Donc ici, la remise en question, elle est là. La remise en question, c'est est-ce qu'effectivement mon acte va être accepté ou pas? Et ici, c'était à l'habitude des pieux prédécesseurs de se remettre en question là-dessus. De se remettre en question sur effectivement est-ce que mon acte va être accepté ou non. Ici, les savants émettent deux conditions. Deux conditions, al-ikhlas et al-iqtida. Al-ikhlas, donc la sincère intention est exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais mon œuvre uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour tel individu ou pour telle personne ou pour tel saint, ou etc. Donc je fais uniquement mon œuvre uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première condition. L'autre condition, al-iqtida bi shar'illah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, c'est le fait de se conformer à la législation et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'individu qui fait un acte qui n'est pas forcément en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte qui est rejeté par la suite. Alors effectivement ici, Ibn Qayyim nous donne un exemple et une image formidable, extraordinaire à méditer concernant l'individu qui ne prend pas en compte ces deux conditions. L'individu qui ferait ses actes sans intention ou en fin de compte il ferait son acte pour un tel ou un tel et ou qui ferait son acte sans réfléchir à la conformité par rapport à la sunna du prophète sallam, il nous dit al-amalu bighayri ikhlasin wala iqtida'in kalmusafiri yamla'u jarabahu ramlan yuthqiluhu wala yanfa'uhu. Donc il nous dit celui qui effectue, ou plutôt l'acte qui est effectué sans intentions pour Allah subhanahu wa ta'ala et sans yani, vérifier la conformité à la sunna du prophète sallam, alors cet acte ou celui qui effectue cet acte est tel un voyageur qui remplit ses bagages de sable. Donc il se prépare pour son voyage, au lieu de mettre ses bagages et ses affaires qui vont lui être profitables durant le voyage, il remplit ses bagages de sable. Tellement il remplit ses bagages de sable que ses bagages deviennent lourds et deviennent une difficulté pour lui durant tout le voyage. Et il ne lui apporte aucune utilité durant le voyage et même arrivé à destination. Donc Ibn Qayyim, c'est de cette manière qu'il qualifie l'individu qui fait un acte, qui effectue une œuvre, sans prendre en compte ces deux conditions. Alors effectivement, le prophète sallam nous le dit très clairement quant à celui qui émet une bonne intention, parce que bien souvent, on a des personnes qui ont des bonnes intentions, mais la fin ne justifie pas les moyens. Donc la personne a une bonne intention, mais malheureusement, elle va commencer à mettre en place des moyens qui ne sont pas forcément en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, une personne qui voudrait faire une aumône avec de l'argent volé, par exemple. La personne, malheureusement, est tombée dans le péché du vol, elle vole de l'argent, et elle décide de faire des aumônes. Malheureusement, c'est un acte qui est rejeté. Comme nous dit le prophète sallam, il nous dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Celui qui effectue une œuvre pour laquelle notre ordre n'est pas venu, à ce moment-là, cet acte est rejeté. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la personne qui volait, mais toute chose acquise illicitement et pour laquelle l'individu voudrait faire une bonne action, cet acte est rejeté. Alors ça, c'est concernant la non-conformité à la sunna du prophète sallam et à la législation. Également pour celui, l'autre condition, donc l'ikhlas, pour celui qui fait un acte, effectivement, qui en apparence est conforme à la sunna du prophète sallam, mais l'intention n'est pas là. L'intention n'est pas là, ou carrément l'intention est pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement ici, il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, pour que l'acte soit validé et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, bien évidemment, c'est ash-shirk al-akbar. La personne clairement sort de la religion à travers cet acte-là, c'est-à-dire qu'elle prie pour autre que Allah, pour des tombes, pour des saints, etc. Elle fait des sacrifices pour des tombes, etc. Effectivement, c'est ce qu'on appelle ash-shirk al-akbar, donc là, le grand associationnisme. Et ici, effectivement, malheureusement, même si c'est un shirk qui est visible et en fin de compte facilement évitable, car à notre époque, tout est mis en place, alhamdoulilah, à travers les technologies pour avoir accès à la science et pour éviter ce piège du shirk al-akbar. Effectivement, malheureusement, dans nos pays et dans certains pays encore, effectivement, certains vouent encore un culte à des saints et à des tombes, etc. Ça, c'était le premier piège. Deuxième piège au niveau d'intention, donc effectivement, c'est al-shirk al-asrar. Effectivement, on va s'attarder un petit peu sur celui-ci en particulier. Car effectivement, c'est celui sur lequel le prophète sallam était le plus craintif pour sa communauté. Il nous dit « Akhwafu ma akhafu alaykum al-shirk al-asrar ». Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk. Le petit shirk. Pour quelle raison? Car effectivement, il est difficilement décelable. Il est difficilement décelable. Et comme il est difficilement décelable, il est difficile à éviter. Il est difficile à éviter. À tel point que même des savants, même des imams, même des bienfaiteurs sont touchés par justement un shirk al-asrar, par l'ostentation. Ce qu'on va traduire par l'ostentation. En fin de compte, le fait que l'individu fasse quelque chose pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, mais sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Alors ici, Al-Izzu ibn Abd al-Salam nous définit ce que c'est Al-Riya, donc l'ostentation, ou ce qu'on pourrait appeler Al-Shirk al-Asrar. Il nous dit tout simplement Idhharu l'insan li'amali al-ibadah, wa dhalika li'anal aradan dunyawiyan, imma jalbu naf'in dunyawi, ou ta'zimin ou ijlalin min al-nas. Donc il nous dit tout simplement, en fin de compte, c'est le fait que l'individu montre son action, son acte d'adoration, afin d'obtenir une part de cette vie d'ici-bas, soit par un bien matériel, ou soit par une notoriété auprès des gens. Et ici, Sahl ibn Abdillah, donc un autre plus prédécesseur, nous dit toujours concernant Riya, donc l'ostentation, il nous dit, concernant la difficulté à lutter contre cette ostentation, et qui vient confirmer effectivement la parole du Prophète, qui nous dit la chose la plus craintive pour la communauté, justement, c'est ce fameux Shirk al-Asrar. Sahl ibn Abdillah nous dit quoi ? Laysa 'ala an-nafsi shay'un ashaqqu min al-ikhlas li'annahu laysa laha fihi nasib. Il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit ce plus prédécesseur, il nous dit, il n'y a pas plus éprouvant pour l'âme que la sincérité, car l'âme ne prend pas part au bénéfice, quant justement au bénéfice de cet acte. Cet acte qui est fait par sincérité et avec dévotion et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il cache, qu'il discrètement il fait son acte, il ne cherche pas le regard des autres, il ne tombe pas dans l'ostentation. À ce moment-là, l'âme en prend un coup. L'âme en prend un coup car effectivement, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Donc comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, l'âme appelle au mal. Certes, l'âme appelle au mal, sauf que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Et ici, effectivement, l'âme aime bien être remerciée. L'âme aime bien être mise en avant. L'âme aime bien recevoir en retour. Et effectivement, le fait que l'individu place yani, la sincérité dans son acte, en premier, effectivement, alhamdoulilah, ça lui permet de lutter contre son âme. Et ici, à titre d'exemple, Ali ibn al-Hussein, subhanallah, yani, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, donc le compagnon du prophète sallam, et son gendre également, donc son petit-fils, Ali ibn al-Hussein, alors qu'il était à Médine, lorsqu'il décéda, subhanallah, c'est pour montrer un petit peu, yani, l'acte lorsqu'il est fait de manière sincère. Lorsque l'acte est fait de manière sincère, yani, lorsqu'il décéda, beaucoup de gens de la ville de Médine se sont plaints de ne plus recevoir de la nourriture durant les nuits, durant les jours et durant les nuits. Car effectivement, il distribuait la nourriture discrètement la nuit aux familles de Médine. Et lorsqu'il décéda, les gens ont compris que c'était lui, subhanallah. Il faisait ça tellement discrètement que personne ne savait c'était qui, sauf lorsqu'il décéda. Donc effectivement, ça c'est concernant les deux conditions, al-ikhlas ou al-iqtida. Donc, condition de validité pour l'acte, donc inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, donc il n'accepte que l'acte qui est bon, donc l'acte qui est fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'acte qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'autre enseignement, c'est l'injonction, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, quant au fait de manger uniquement et de se contenter uniquement du licite, et d'accomplir des bonnes œuvres. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite deux versets qu'on a cités tout à l'heure. Donc, Ya ayyuha al-Rasul, Ya ayyuha al-Rasul, kunu min al-tayyibat wa amalu salihah. Ou, messager, manger des bonnes choses et effectuer des bonnes œuvres. Un autre verset qu'on a cité tout à l'heure, Ya ayyuha al-Ladina amanu, ou vous qui avez la foi, ou vous qui croyez, kunu min al-tayyibat ima razaqnakum. Mangez des bonnes choses que nous vous avons octroyées, wa shkuru lillah, et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Prophète sallam, en citant ces deux versets, Yani nous explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même niveau les prophètes et leur communauté quant au fait de manger du licite. L'injonction, elle est pour les prophètes, mais également pour les serviteurs parmi leur communauté. Également, ce qu'on comprend et les enseignements à tirer, c'est que le fait que l'individu mange du licite et se cantonne uniquement à du licite, cette chose va faciliter à l'accomplissement des bonnes œuvres. Subhanallah. Le fait de manger du licite et uniquement du licite, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, va te faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres. Va te rendre facile l'accomplissement des bonnes œuvres, subhanallah. Et ici, subhanallah, ce qui est à méditer également, c'est que les savants nous disent que la meilleure des bonnes œuvres, c'est tout simplement la recherche de la gratitude, l'expression de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et ici, les savants nous disent tout simplement que dans le premier verset, ici, يعني يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أو messager, mangez des bonnes choses et accomplissez les bonnes œuvres. Dans ce premier verset, accomplissez les bonnes œuvres, il est dans un sens global. Le verset qui vient juste après, dans le même hadith, ce qu'on a cité tout à l'heure, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. Donc, ou vous qui avez la foi, qui croyez, mangez des bonnes choses, comme dans le premier verset, mangez des bonnes choses. وَشْكُرُوا لِلَّهِ. Dans ce deuxième verset, Allah ne nous dit pas وَعْمَلُوا صَالِحًا. Il nous précise وَشْكُرُوا لِلَّهِ. Et c'est à partir de là que les savants nous disent que la meilleure des bonnes œuvres que l'individu peut accomplir, c'est la recherche de la gratitude d'Allah. Et la recherche de la gratitude, le fait de remercier Allah, c'est pas uniquement la parole. C'est pas uniquement la parole. Bien évidemment, à la parole. Ça commence par la parole. يعني أشكر الله في دعائي, dans mes invocations, وفي صلاتي, dans mes prières, mais également dans les actes. Et ici, le meilleur exemple qu'on peut avoir ici, c'est l'exemple de Daoud, qu'Allah nous donne dans le Coran. Il nous dit اعملوا آل داود آل داود شكرا, اعملوا آل داود شكرا, ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude. Et donc ici, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite l'exemple de la famille de Daoud comme étant une famille qui s'accomplit dans la gratitude. C'est-à-dire qui œuvre dans la gratitude, dans la recherche de la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Yani nous a rapporté dans les différents tafasir Afwan, Ibn Kathir en particulier, le fait que Daoud, alayhi salam, priait très régulièrement. Il priait très régulièrement à tel point que il a demandé à tous les membres de sa famille. Donc là, ici, on voit l'expression de la gratitude, le fait de remercier Allah Ta'ala. Il a demandé à tous les membres de sa famille de se répartir les prières afin que chaque moment de la journée compte un membre de la famille en prière. Que chaque moment de la journée soit un moment où on trouve quelqu'un dans la famille de Al et Daoud, la famille de Daoud, en prière. Également, Allah Ta'ala nous dit la meilleure des prières, c'est la prière de Daoud. Il priait, donc il dormait la première moitié de la nuit, il se réveillait le dernier tiers pour prier, et il dormait le dernier sixième. Donc il priait une partie de la nuit, quand il dormait l'autre partie. Également, Allah Ta'ala nous dit également que le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud. Il jeûne un jour et il mange un autre jour. Donc ici, on voit à travers ces différents exemples que, subhanallah, l'expression de la reconnaissance des bienfaits. Daoud, alayhi salam, à travers ses actes, Il cherche à exprimer la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit un jour, Daoud, à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, comment puis-je être un serviteur reconnaissant alors que la gratitude elle-même est un de tes bienfaits? Allah lui répondit, à présent tu es reconnaissant, dès lors où tu comprends que tout bienfait provient de moi. Donc très clairement ici, masha'Allah, Daoud lui-même, reconnaissant, serviteur très très reconnaissant, dit à Allah subhanahu wa ta'ala que la reconnaissance que lui-même essaie d'exprimer, c'est également un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui confirme qu'effectivement, il est reconnaissant. À ce moment-là, il est reconnaissant, car il reconnaît le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin du verset, « I'amalu ala Daoud ashukra », Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information. وَقَلِيلٌ عِبَادِي الشَّكُورُ. Et peu sont nombreux les serviteurs qui sont reconnaissants. Malheureusement, on oublie bien souvent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit à la parole ou que ce soit à travers nos actes. On oublie de mettre cette intention dans nos actes, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on effectue le jeûne, un jeûne surrogatoire par exemple, ou qu'on effectue l'aumône en cette période bénie du mois de Ramadan. En remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, quand on effectue un acte, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet acte également. Toujours dans le sens du shukr, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que l'individu qui remercie, qui est reconnaissant envers lui, c'est une cause de l'augmentation des bienfaits. C'est un moyen d'augmenter les bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La in shakartum la azidannakum ». Et ici, subhanallah, ça remet en cause les individus qui pensent effectivement que chercher l'augmentation, l'accroissement des biens et des bienfaits dans l'illicite, c'est une erreur en fin de compte. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le contraire. « La in shakartum la azidannakum ». Celui qui est bienfaisant et qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherche sa gratitude, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui rajouter en bienfaits. Et comme vous le savez, les bienfaits ne sont pas uniquement matériels. Les bienfaits ne sont pas uniquement matériels. Les bienfaits sont tant dans la santé également, dans la foi musulmane, premier bienfait, la religion, l'islam, dans la santé également, au niveau matériel, dans l'intelligence, dans la réussite, dans les enfants. Donc les bienfaits sont très très vastes dans l'obéissance aux parents, dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc le fait que l'individu soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une manière d'augmenter ses bienfaits et d'avoir une facilité dans l'accomplissement des bonnes œuvres. L'autre enseignement tiré ici du hadith, c'est l'exaucement de l'invocation. L'exaucement de l'invocation est ce qui empêche cet exaucement. Car effectivement, malheureusement, quand on invoque, effectivement, parfois l'invocation est exaucée. Parfois, effectivement, il y a des obstacles qui empêchent cet exaucement. Et ici, c'est ce qu'on va observer, inshallah ta'ala, à travers la suite du hadith. La suite du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit la situation d'un voyageur. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرُ. Un voyageur dont le voyage est long. أَشْعَثَ أَغْبَرُ. Ébouriffé au niveau des cheveux. Sale au niveau du visage et des cheveux. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. Il lève les mains au ciel. يَا رَبِّي يَا رَبِّي. Il lève les mains au ciel en prononçant « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Et ici, yani effectivement, la suite du hadith nous explique وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. Sa nourriture est illicite. Sa boisson est illicite. Ses vêtements sont illicites. وَرُذِيَ بِالْحَرَامٌ. Il a été nourri par l'illicite ou dans l'illicite. Il a grandi dans l'illicite. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Comment allons-nous exaucer son invocation? Alors ici, subhanallah, ce qui est extraordinaire dans ce hadith, c'est qu'effectivement, le prophète décrit un serviteur, en fin de compte. Ce voyageur ici, c'est un serviteur qui voyage pour l'adoration d'Allah, comme nous disent les commentateurs du hadith. Ils nous disent effectivement qu'il voyage, pour l'adoration, pour le hajj, il voyage très régulièrement, il voyage pour le hajj, il voyage pour la umrah, il voyage pour l'apprentissage dans la religion, dans la science. Donc ici, le prophète, c'est l'exemple d'un voyageur serviteur ici. Et effectivement, quand on analyse un petit peu ce serviteur, énormément de conditions sont réunies pour que son invocation soit exaucée. Il est en voyage, par exemple. Il est en voyage. Et effectivement, comme vous le savez, la dua du voyageur est exaucée. L'invocation du voyageur est exaucée. Comme nous le dit le prophète sallam, ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. Donc, comme nous dit le prophète sallam, donc trois invocations sont exaucées. Et il n'y a pas de doute là-dessus. L'invocation de l'opprimé, celui qui est opprimé, qui subit une injustice. L'invocation du voyageur, et ici c'est ce qui nous intéresse ici. Et l'invocation du parent envers son enfant. Du père ici, mais la mère également. Donc ici on voit que la première condition, pour que son invocation soit exaucée, le voyage est rempli. Deuxième ici condition, son état physique qui témoigne de sa précarité. Le fait qu'il soit dans une situation précaire, de besoin. Et ici, également le prophète sallam nous dit que l'invocation de celui qui est dans la précarité est exaucée. رُبَّ أَشْعَثْ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَيَّ لَأَبَرَّهُ. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le hadith ici, rapporté par un musulman? Il nous dit, yani, nombreux sont ceux qui sont dans la précarité et dont les portes se ferment. Ils sont repoussés par les portes qui se ferment. S'il invoquait, S'il invoquait sur moi, effectivement, je lui répondrai. Je lui exaucerai son invocation. Donc ici, on voit qu'effectivement, parmi les conditions d'exaucement de l'invocation, également le fait qu'il soit dans une situation de précarité. Également le fait qu'il lève les mains. C'est également une des conditions d'exaucement de l'invocation. Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifra kha'ibatayn. Certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui. Il éprouve de la pudeur lorsque celui-ci lève ses mains vers lui, et en est dans le fait de lui rendre ses mains vides, et en est de ne pas lui exaucer ses invocations. Donc effectivement, à nouveau, une troisième condition qui est remplie ici pour l'exaucement, le fait qu'il lève les mains. L'autre condition, c'est le fait qu'il répète et qu'il insiste, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Et effectivement, le prophète sallam Yani était de la sorte quand il l'invoquait. Il répétait, Yani, il insistait, il répétait. Et donc ici, malgré toutes ces conditions réunies, subhanallah, Yani Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas exaucé son invocation. Car il nous dit à la fin, Fa'anna yustajabu lah. Et comment celui-ci verra son invocation exaucée? Alors que quoi? Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Sa nourriture est illicite. Sa boisson est illicite. Sa tenue est illicite. Il a été nourri dans l'illicite, cet individu, durant toute son enfance. Alors effectivement, ça nous amène à une réflexion toute simple. Qu'en est-il de nos œuvres à nous? Qu'en est-il de nos œuvres à nous? Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous faisons rentrer dans nos demeures? Comment, Yannine, gagnons-nous notre vie? Ce sont des questions extrêmement importantes, subhanallah. Yannine, quant à l'agrément de nos œuvres. De ces questions-là, de ces réponses à ces questions-là, dépend l'agrément de nos œuvres, subhanallah. Donc effectivement, l'individu, quand il consomme de l'illicite, effectivement, il s'expose justement à le fait que Allah subhanahu wa ta'ala refuse ses actions, mais également le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ferme l'exaucement, la porte de l'exaucement de ses invocations. Ou plutôt le serviteur ferme lui-même la porte de l'exaucement de ses invocations. Si l'individu, si le serviteur ne cherche pas secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son invocation, le fait qu'il se contente de l'illicite, auprès de qui va-t-il chercher secours, ce serviteur? Si ses actes ne sont pas acceptés, si ses invocations ne sont pas exaucées, mais auprès de qui va-t-il trouver secours, ce serviteur? Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Si Allah vous donne la victoire, vous apporte secours, alors à ce moment-là, personne gagnera contre vous. Personne n'aura victoire sur vous. Mais si Allah vous humilie, vous abandonne, si Allah vous abandonne, mais qui d'autre va vous porter secours après lui? Mais qui d'autre va vous porter secours après lui? Donc en fin de compte, on s'aperçoit que l'individu qui consomme de l'illicite, qui effectivement effectue des œuvres qui ne sont pas bonnes, qui ne respectent pas les deux conditions qu'on a citées tout à l'heure, al-ikhlas ou al-iqtida, qui consomme de l'illicite effectivement, à ce moment-là, il s'expose à un grand danger. Il s'expose à un grand danger le fait que ses actions soient refusées et que son invocation n'est pas acceptée. L'autre danger ici, qui est apporté dans le hadith et qui est assez grave, c'est le fait que l'individu expose à ces différents dangers qu'on a cités, il expose sa famille également. Sa famille est exposée également au danger. Car effectivement, le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit le hadith? Wa mat'amuhu haram. Sa nourriture est illicite. Sa boisson est illicite également. Wa malbasuhu haram. Sa tenue est illicite également. Wa ghudhiya bil haram. Et il a été nourri. Il a été nourri par qui? Par ses parents, par sa famille. Il a été nourri dans l'illicite. Et donc, le fait qu'il ait été nourri dans l'illicite, effectivement, ça conduit également à ce que lui aussi s'habitue à l'illicite. Il s'habitue à l'illicite et effectivement à ce qu'il tombe dans ce piège de la mauvaise action et que ses actions ne soient pas acceptées et que son invocation, effectivement, ne soit pas exaucée. Donc ici, effectivement, là, il y a un conseil à donner à toutes les familles qui ont des membres de la famille, par exemple, qui ramènent des choses douteuses à la maison. Ou peut-être le chef de famille. Ou peut-être un frère. Peut-être une sœur. Il y a une chose douteuse peut-être un objet volé, peut-être des choses, yani, qui veut rentrer à la maison. La première chose à faire, c'est de poser la question d'où ça vient, subhanallah. D'où proviennent ces choses-là? Si c'est l'enfant, d'où tu ramènes ça? Si c'est le chef de famille, responsable de la famille, yani, comment ça, yani? Comment ça, tu nous ramènes ça à la maison, subhanallah? On est musulman ou on n'est pas musulman, subhanallah? On veut s'exposer à ce danger qui est le fait que nos invocations soient refusées? On veut s'exposer au danger que nos actions ne soient plus acceptées? Alors effectivement, il incombe aux familles de justement, yani, orienter, de pousser l'individu, le membre de la famille, à arrêter cette consommation illicite. Que ce soit des produits volés, que ce soit des produits dangereux pour la santé, effectivement. Des produits stupéfiants, par exemple. Toutes ces choses-là. Le fait que les membres de la famille ferment les yeux, à ce moment-là, c'est une manière de cautionner. Et c'est une manière également de s'exposer au danger qu'on a cité juste avant. Le fait que les actions ne soient pas acceptées, et le fait que les invocations ne soient plus acceptées également, ne soient plus exaucées. Alors ici, rapidement, on a survolé le hadith. Je voudrais aborder, toujours dans le sens de l'invocation, dans le thème de l'invocation, les choses qui rendent propice l'exaucement d'invocation. Car effectivement, comme vous le savez, le prophète sallam nous a orienté, nous a indiqué différentes choses qui peuvent justement permettre l'exaucement d'invocation. Et à l'inverse également, il nous a indiqué des choses qui vont obstruer l'exaucement d'invocation, qui vont faire obstacle à l'exaucement d'invocation. Et ici, on peut citer tout simplement par exemple qu'il y a des moments propices à l'invocation. Il y a des moments propices. Donc l'individu, le serviteur, qui cherche à invoquer Allah Ta'ala, doit veiller à surveiller ces moments propices. Lorsqu'il sait que, alhamdoulilah, il y a des moments où Allah Ta'ala exauce l'invocation, il doit être le premier à courir à ces moments-là. Il doit se réserver ces moments-là pour l'invocation. Il doit vraiment, yani, veiller à ce que, lors de ces moments-là, il soit en exclusivité avec Allah Ta'ala au niveau de ses invocations. Que personne ne vienne le déranger à ce moment-là. Que ce soit des invocations individuelles ou en famille. Ces moments-là doivent être planifiés dans le planning de l'individu. Parmi ces moments-là, alors effectivement, nous vivons un mois béni. Donc effectivement, le mois de Ramadan est un mois propice aux invocations exaucées. En particulier pour le jeûneur. Pour le jeûneur, effectivement, de manière générale, pour tout le monde, même ceux qui sont excusés du jeûne, comme on l'a vu dans les différents audios précédemment, ceux qui sont excusés du jeûne également, yani, sont conviés effectivement à l'invocation également, même s'ils ne jeûnent pas, ils vont donner la fidya, yani, ou rattraper par la suite. Donc effectivement, le jeûneur, de manière générale, dans son sens global, effectivement, lui aussi, effectivement, c'est un moment propice à l'invocation. Yani, il va invoquer Allah Ta'ala durant son jeûne. Également, durant le vendredi. Le vendredi également fait partie de ces moments où l'invocation est exaucée. On peut citer également durant le vendredi, et ici les savants citent plusieurs moments. Les savants nous citent également, donc lorsque l'imam monte sur le minbar, jusqu'à la fin de la prière. Mais également, on nous cite également d'autres avis en disant qu'effectivement, l'invocation est exaucée, celui qui invoque entre le moment où l'imam, yani, va commencer, yani, va finir, yani, sa khutba, et faire la prière, effectivement, à ce moment-là, effectivement, c'est un autre moment pour l'exaucement d'invocation. D'autres savants nous disent effectivement, toujours le vendredi, après l'Asr. Après l'Asr, c'est également un moment de l'exaucement d'invocation. Donc le vendredi est un moment propice, il y en a notamment à travers ces moments que j'ai cités. Également le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit, subhanallah. Et c'est un moment propice. Où Allah Ta'ala, yani, comme nous dit dans le hadith, Allah Ta'ala descend dans le ciel le plus proche. Yani, il descend. Et il nous dit, yani, qui d'entre mes serviteurs, yani, m'implore, je l'exaucerai. Qui d'entre mes serviteurs, yani, demande pardon, je lui exaucerai. Qui d'entre mes serviteurs, yani, je m'invoque, je lui exaucerai également. Donc effectivement ici, dans ce hadith, où Allah Ta'ala descend dans le dernier ciel, le ciel le plus proche des serviteurs, dans le dernier tiers de la nuit. L'individu qui sait ça, subhanallah. L'individu qui connaît ces informations. Ne doit pas négliger ces moments-là, subhanallah. Ne doit pas négliger ces moments durant le vendredi. Ne doit pas négliger ce moment durant le dernier tiers de la nuit. Et ça, c'est toutes les nuits. C'est toutes les nuits, subhanallah. Toutes les nuits, l'occasion est répétée et répétée et répétée. Seule l'insouciant, subhanallah, ne fait pas attention. Également, lors de la prosternation, أَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنَ الْرَبِّهُ وَهُوَ سَجِدُ. Le moment le plus propice, où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lors de la prosternation. Lors de la prosternation, subhanallah. Donc lors de la prosternation, le serviteur va abonder en invocation. Va abonder en invocation et va invoquer un maximum, en espérant qu'Allah l'exauce. Également entre l'adhan et l'iqama. Lorsque le adhan retentit, entre l'adhan et l'iqama, c'est un moment propice également à l'invocation. Et je peux en citer énormément des moments, effectivement, d'autres moments, c'est juste à titre d'exemple. Également le jour de Arafat également fait partie des moments de propice à l'invocation. Parmi les situations où l'invocation est exaucée également, comme on l'a cité, c'est le fait de lever les mains. Comme on l'a cité tout à l'heure, le hadith, où Allah Ta'ala yani éprouve de la pudeur face au serviteur qui lève les mains. Également, le fait que le serviteur yani, a une voix d'humilité. Il baisse sa voix un petit peu. Il ne hausse pas le ton de la voix, yani. Comme nous le dit dans un hadith, le prophète, yani, n'élevez pas vos voix, car Allah Ta'ala n'est pas sourd. Il entend vos invocations. Yani, effectivement, le fait que l'individu invoque de manière humble et en pleine humilité Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le fait que le serviteur soit sûr et soit convaincu de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car effectivement, ça c'est une des causes de l'exaucement. Le fait que l'individu a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer son invocation. Comme nous le dit le prophète sallam, yani, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre de trois manières à ton invocation. Allah subhanahu wa ta'ala répond à l'invocation du serviteur de trois manières. C'est-à-dire que la personne qui pense que son invocation, yani, n'est pas acceptée. Yani, il dit, alhamdoulilah, je mange du licite. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Mais malheureusement, j'ai invoqué et invoqué. J'attends, je patiente, mais rien ne vient. Et effectivement, ici, ce hadith vient répondre à cet individu en particulier. Car effectivement, le prophète sallam nous dit, imma, yani, concernant la réponse à l'invocation, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Soit, Allah ta'ala va lui répondre à son invocation immédiatement, très rapidement. S'il n'a pas répondu immédiatement à son invocation, la deuxième manière, وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. Ou alors Allah Ta'ala va réserver l'exaucement de son invocation pour l'akhira. Et c'est meilleur pour lui. C'est meilleur pour lui, car la vie de là est meilleure que la vie d'ici-bas. La troisième manière, وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. Ou alors Allah Ta'ala va t'enlever un mal qui devait t'arriver. Par l'invocation, tu vois, yani, alhamdoulilah, lever un mal, éviter un mal qui devait t'arriver, subhanallah. Et ici, la parole, une parole extraordinaire, yani, que prononce Omar ibn Khattab, qui nous dit, Ana la ahmilu ham al-ijaba, walakinni ahmilu ham al-du'a. Fa idha ulhimtu al-du'a, fa inna al-ijabata ma'a. La parole, c'est une parole qui vaut de l'or, cette parole. Elle vient nous dire la chose suivante. Omar ibn Khattab nous dit, et là on voit ici la profondeur du compagnon, dans la relation qu'il a avec Allah et dans l'invocation. Il nous dit, je ne me soucie pas de la réponse et l'exaucement de l'invocation, mais je me soucie plutôt de l'invocation, dans le fait de faire l'invocation. Il dit, car si Allah m'a permis et m'a inspiré de faire une invocation, alors la réponse à cette invocation viendra inéluctablement, inshallah ta'ala. Donc ça, j'ai cité quelques exemples concernant, effectivement, les choses qui rendent propice l'exaucement à l'invocation. A contrario, à titre d'exemple, et juste en survolant le sujet, les choses qui font obstacle à l'exaucement de l'invocation. Et ici, comme on l'a cité tout à l'heure, la consommation de l'illicite, le fait que l'individu consomme des choses illicites, ou qu'il fasse des choses qui ne sont pas dans l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de commettre également une injustice. Le fait de commettre une injustice et le fait de commettre des injustices de manière générale, effectivement, est un obstacle à l'exaucement de la vocation. Le fait d'invoquer également le mal pour quelqu'un, pour rompre des liens de parenté également. Ce sont des choses qui, effectivement, font obstacle à l'exaucement de la vocation. Le fait d'être pressé également, subhanallah, à l'invocation, à l'exaucement d'invocation. Le fait d'être pressé, l'individu yani, invoque Allah ta'ala et il est pressé. Yani, le fait d'être pressé, effectivement, montre une certaine mauvaise opinion envers Allah ta'ala. Et comme on l'a cité tout à l'heure, l'individu doit avoir une bonne opinion d'Allah ta'ala. Il doit avoir une bonne opinion d'Allah ta'ala dans le fait qu'Allah ta'ala va exaucer son invocation. Donc voilà de manière générale ce qu'on pouvait dire concernant le sujet sur le hadith. Concernant le fait que Allah est bon, qu'il n'accepte uniquement le bon, et que concernant l'action qui est bonne, elle remplit deux conditions. Le fait qu'elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc al-ikhlas, lillahi subhanahu wa ta'ala, fil ibada, fil amal saliha. Également qu'elle doit être en conformité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la sunna, la tradition prophétique, al-irtida, bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Également le fait que l'individu se contente uniquement du licite, c'est une manière de, alhamdoulilah, de accroître les bienfaits d'Allah subhanahu sur lui, comme on l'a cité tout à l'heure. Le fait de chercher la gratitude d'Allah subhanahu représente la meilleure des œuvres que l'individu peut faire. Également, ce qu'on a cité, le fait que l'individu yani, mange de l'illicite, il s'expose également au fait que son invocation n'est pas exaucée. Barakallahu fikoum pour votre attention. Je vais m'arrêter là-dessus, inshallah ta'ala. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم pour votre attention et désolé à nouveau pour le contretemps qui s'est produit au début d'intervention. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.